est 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
On fait le tour de l'actualité française. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Nous sommes le vendredi 21 mars.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, Mehdi Nemmouche, condamné à la perpétuité dans le procès des otages en Syrie. Il est donc reconnu coupable d'avoir été le geôlier de 4 journalistes français otages de Daesh en Syrie en 2013. On sera en direct avec notre envoyé spécial. Dans le reste de l'actualité, alors que demain des manifestations sont prévues contre l'extrême droite et le racisme, c'est le trouble dans les partis de gauche après la caricature de Cyril Hanouna. LFI, la France insoumise, est condamnée pour atteinte au droit à l'image. Et puis ce vendredi soir, c'est top départ du SIDAction, la collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH. Enfin, à l'occasion de la première journée internationale dédiée aux glaciers, direction la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs qui accueille le festival Agir pour les glaciers pendant 3 jours. On y sera en fin de journal.
24 heures en France.
Mehdi Nemmouche, le principal accusé du procès des geôliers du groupe État islamique, est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Déjà condamné précédemment à la perpétuité en Belgique pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, il a été reconnu coupable par la cour de séquestration et actes de torture et de barbarie commis en Syrie contre des otages occidentaux et des citoyens syriens en 2013-2014. Laura Martel, bonsoir.
Bonsoir.
C'est donc une décision prise au terme de plus de 10 heures de délibéré.
Mehdi Nemmouche est resté impassible à l'énoncé de la peine, conforme aux réquisitions. En demandant la perpétuité, l'avocat général avait souligné que le parquet l'a réservé aux djihadistes les plus dangereux, pointant que si quelques 300 terroristes ont été jugés depuis 6 ans, la réclusion à vie n'a été prononcée qu'une vingtaine de fois, dont 10 pour des accusés détenus. Benjamin Chambre avait alors insisté sur la dangerosité extrême et persistante de Mehdi Nemmouche, qui, dès le début du procès, s'était en effet revendiqué soldat de l'État islamique tout en niant son rôle de geôlier. J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais, a-t-il encore clamé lors de ses derniers mots. Le fait que je sois incarcéré ne changera rien, je suis un homme debout. Pour ce qui est de ses deux co-accusés présents dans le box, le français Abdelmalek Tanem, également condamné pour séquestration, s'est vu infliger 22 ans de prison. Kaïs Al-Abdallah, un Syrien considéré comme un haut cadre de l'EIRAK, a lui écopé de 20 ans la peine maximale pour association de malfaiteurs terroristes. La cour n'a pas motivé sa décision, mais concernant la séquestration et les actes de torture et de barbarie, elle a élargi le périmètre des victimes reconnues à l'ensemble des 25 journalistes et humanitaires occidentaux kidnappés à la même période en Syrie, y compris ceux qui ne sont jamais revenus, mais aussi aux ressortissants syriens non identifiés dont les cris hantent encore les ex-otages.
Les précisions de Laura Martel. Laura, vous avez aussi recueilli la réaction de l'ex-otage Didier François quelques minutes après l'annonce de la prison à perpétuité pour Mehdi Nemmouche. On l'écoute.
Honnêtement, ce procès, il a été exceptionnel. Il nous a donné la parole, mais il a donné la parole à tous nos camarades qui ne sont pas revenus. Tous nos camarades européens, américains, britanniques, les Syriens ont pu être entendus, raconter ce qu'ont vécu au quotidien les Syriens face à l'État islamique qui a torturé en masse, liquidé en masse, qui a quand même réduit en esclavage sexuel les yézidis. Franchement, on a réussi à porter leur voix au-delà de notre cas. La Cour a accepté de les joindre à notre situation d'otages français, journalistes, connus. Donc évidemment, pour nous, c'est plus facile de s'exprimer. Eux n'avaient aucun espace pour parler, pour raconter leur souffrance, pour raconter leur calvaire. Et bien aujourd'hui, une cour française leur a donné cette voix, leur a donné cette possibilité d'exister. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est tout à notre honneur et c'est vraiment quelque chose de fort.
Didier François, après l'annonce de la prison à perpétuité pour Mehdi Nemmouche.
Paris 89 FM.
Demain samedi, des manifestations sont prévues un peu partout dans le pays contre l'extrême droite et le racisme. Des mobilisations à l'appel de plusieurs associations comme SOS Racisme et la Ligue des Droits de l'Homme. Du côté des partis politiques, la France Insoumise avait d'abord appelé à manifester avec plusieurs affiches, dont une sur laquelle l'animateur de télé Cyril Hanouna était représenté avec des traits caractéristiques des caricatures antisémites des années 30. L'affaire est passée devant les tribunaux de Nanterre et les filles, la France Insoumise est condamnée pour atteinte au droit à l'image. Et si l'affiche a été retirée rapidement, cela crée un trouble au sein des partis de gauche, Stéphane Duguay.
Dans les mêmes marches, mais chacun de son côté. Déjà brouillé sur bien des sujets, les membres du nouveau Front Populaire se sont encore divisés sur l'affiche jugée antisémite publiée par LFI.
C'est une erreur inacceptable de la France insoumise que nous condamnons.
Le député socialiste Arthur Delaporte regrette ce nouveau dérapage de ses collègues insoumis.
C'est clair que ça brouille le message. Ils ont mal agi parce qu'ils contribuent à alimenter en fait les accusations sur une complaisance vis-à-vis de l'antisémitisme qui sont inacceptables.
Cette polémique éclabousse la gauche, juge le député écologiste Pouria Amirshahi, mais pour lui, ça ne doit pas détourner le message de la manifestation contre l'extrême droite.
Il n'est pas à croire une seconde que ça diminue l'importance et la nécessité d'organiser une marche antiraciste et antifasciste. Je pense qu'il y a des milliers de militants ou d'électeurs insoumis qui seront à la manifestation et c'est très bien.
Mais ils seront tenus à distance par les communistes en colère de cette campagne de communication, même si le député LFI Thomas Porte tente d'arrondir les angles.
Nous avons retiré cette affiche. Si elle a pu blesser, toucher des gens, moi je le regrette et je le représente mes excuses, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on voit bien qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui. Ça fait 10 jours qu'elle a été retirée, cette affiche, et on continue à en parler.
Selon lui, aucun doute. Malgré la polémique, les insoumis seront bien accueillis dans les cortèges partout en France. Réponse ce samedi.
Stéphane Duguay. Direction l'île de la Réunion, où l'épidémie de chikungunya a fait ses premiers morts. 2 personnes de 86 et 96 ans sont décédées la semaine dernière. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé a souligné l'urgence de vacciner en priorité les personnes âgées et les adultes atteints d'autres pathologies. Un nouveau vaccin de fabrication franco-autrichienne appelé Ixchiq sera distribué dès le début du mois d'avril sur l'archipel. 8500 cas ont été recensés depuis le début de la flambée épidémique en août 2024. Aucun cas n'avait pourtant été signalé sur l'île depuis 2010. On en parle avec Amélie Beaucourt.
Pour l'épidémiologiste Antoine Flao, il est le plus souvent bénin, mais peut-être fatal pour les personnes âgées ou très vulnérables.
Le mot chikungunya en swahili voudrait dire marcher courbé, c'est-à-dire que vous avez des douleurs articulaires telles que vous êtes pratiquement dans l'impossibilité de vous mouvoir pendant quelque temps.
Découvert en 1952, le virus s'est transmis par les moustiques tigres qui se sont invités en nombre dans les villes réunionnaises depuis un mois.
Après la faveur du cyclone qui est passé récemment sur l'île, il y a une grande chaleur qui fait que la pullulation du moustique en ce moment s'est multipliée. Mais n'oublions pas, c'est un moustique domestique. C'est-à-dire que c'est nous qui l'élevons sur nos terrasses, dans nos jardins, dans les soucoupes des pots de géranium. C'est un moustique qui est proche des habitations et qui vient piquer d'ailleurs le plus souvent à l'extérieur, pas à l'intérieur des maisons.
C'est en piquant une personne infectée que le moustique transporte ensuite le virus et le transmet en piquant de nouveau. La propagation est donc très rapide.
Il n'y a pas beaucoup de raisons que les autres îles alentours soient épargnées. C'est un problème qui doit vraiment aujourd'hui concerner l'ensemble des îles de l'océan Indien.
Selon l'Institut Pasteur, à l'exception de l'Océanie, les épidémies de chikungunya n'ont épargné aucun continent sur la planète.
Amélie Beaucourt, et on reviendra sur cette épidémie dans le journal de l'Outre-mer dans quelques minutes. On parle toujours santé avec l'opération SIDAction. À partir de ce soir et tout au long du week-end, c'est la collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH, l'occasion de parler du virus alors que continuent de circuler de fausses idées qui alimentent la discrimination. Écoutez Florence Thune, elle est la directrice de SIDAction.
Aujourd'hui, malheureusement, on voit encore que beaucoup d'idées fausses continuent de circuler sur le VIH. Ce sont des idées aussi qui entraînent de la discrimination, puisqu'on voit que dans les sondages qu'on mène encore aujourd'hui, une part importante des jeunes pensent qu'on peut être contaminé par le VIH en embrassant une personne séropositive, en partageant un verre d'eau. Donc on voit à quel point il y a à la fois des idées complètement fausses et souvent une méconnaissance des vrais modes de transmission et surtout des modes de prévention. Donc on a encore un combat très fort à mener dans tous les pays, notamment auprès des jeunes, mais pas que, pour leur rappeler les modes de prévention, les modes de transmission. On rappelle que le VIH se transmet par voie sexuelle ou par voie sanguine en cas de, par exemple, de partage de seringues non stériles. Et on rappelle donc que le VIH ne se transmet pas en embrassant une personne, en partageant le même verre d'eau, en serrant la main d'une personne séropositive. Ce qui est important aujourd'hui de rappeler, c'est que quand les personnes sont sous traitement, non seulement elles restent en bonne santé, mais en plus elles ne peuvent pas transmettre le virus. D'où l'importance de l'accès au dépistage et de la mise sous traitement.
Des propos recueillis par Valérie Cohen. Ce vendredi 21 mars, c'était aussi la première journée internationale dédiée aux glaciers. À cette occasion, la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs accueille le festival Agir pour les glaciers pendant 3 jours. Scientifiques, politiques et citoyens se réunissent pour comprendre nos interdépendances avec les glaciers. Il faut dire qu'il y a urgence. De 1850 à nos jours, les glaciers alpins ont perdu 70% de leur surface et pourraient totalement disparaître d'ici 2050. Explication de Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et fondateur du festival.
Malheureusement, certains glaciers sont parfois attaquée à la pelleteuse, notamment par des compagnies minières. Il y a des fois des destructions directes à l'explosif. Et donc dire qu'on veut mettre les glaciers en protection forte, c'est dire qu'on ne on veut pas les, leur ajouter des destructions directes supplémentaires. Alors c'est pas ça qui sauvera les glaciers du tout du climat. Les glaciers fondent à cause du dérèglement climatique. Par contre, ça empêchera des menaces supplémentaires. C'est un coup d'avance pour protéger aussi la nature du futur qui va naître du retrait glaciaire. Quand on malheureusement perd les glaciers, on va continuer à les perdre un peu ou énormément. Et on a des nouveaux écosystèmes comme des nouveaux lacs, des nouvelles rivières, des nouvelles forêts qui sont en train de naître dans ces zones et en fait qui ont une immense valeur écologique, contribuent un peu à séquestrer du carbone. Pour le cycle de l'eau, c'est les réserves d'eau douce du futur. Pour la biodiversité, c'est les sanctuaires ou les refuges du futur. Donc si on les protège ces zones dès maintenant, on laisse la nature évoluer et en fait on maximise les fonctionnalités écologiques et le fait que dans les territoires, on reste dans des territoires habitables parce qu'on a de la fraîcheur, on a de l'eau, on a de la biodiversité et qu'on peut vivre.
Des propos recueillis par Igor Strauss dans la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Et puis du sport à Nankin en Chine, les mondiaux d'athlétisme en salle ont commencé ce vendredi. Chez les Bleus, les regards seront notamment tournés vers Willem Belossian qui débutera sa compétition sur 60 mètres haies. Le Français aborde ces mondiaux avec ambition, quelques jours après sa médaille d'argent au championnat d'Europe en salle aux Pays-Bas, Mathis Landé.
Deux semaines, c'est le très court intervalle de temps laissé aux athlètes entre les championnats d'Europe en salle et l'équivalent international, les mondiaux. Pour Willem Belossian, double champion de France en titre du 60 mètres haies, il faudra retrouver toute son énergie pour aborder au mieux la compétition.
C'est un peu dur de se remobiliser après un championnat, parce qu'on ça reste un championnat, donc on laisse quand même pas mal de jus là-bas, surtout nerveusement. Mais en tout cas, on est sur une continuité, donc on prend le wagon et on y va.
S'il a remporté les championnats du monde junior sur 110 mètres haies en 2014, Willem Belossian n'a jamais fait mieux qu'une 8e place aux mondiaux en salle chez les seniors. À Nankin, il s'agit de sa 3e participation et l'athlète de 29 ans, entraîné par l'ancien triple sauteur français Teddy Tamgo, ambitionne clairement le podium.
Je vais pour la médaille d'or, ça va être une très belle bataille. Maintenant, après, on sait que sur un championnat, tout reste possible. Maintenant, on sait qu'il y a un cadre qui est là, c'est Holloway. C'est à moi de faire le nécessaire pour pourquoi pas le titiller ou pourquoi pas le gagner, on sait jamais.
En plus de l'américain Grant Holloway qui écrase la discipline, Belossian retrouvera Jakub Zimanski. Au début du mois, le Polonais l'avait privé de médaille d'or pour 200e en finale des championnats d'Europe.
Mathis Landé, 24 heures en France, continue, restez avec nous.
24 heures en France. Juliette Pietraszewski.
Et notre invité culture du jour est d'origine haïtienne. Après l'assassinat de son père en 2000, puis un attentat et des menaces, elle s'est exilée au Québec depuis plusieurs années. L'écrivaine Jean-J. Dominique vient de publier un nouveau roman intitulé « Tu nous manques » aux éditions Remus Ménage. Elle répond aux questions de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-J. Dominique.
Bonjour Catherine.
Vous avez dû quitter Haïti il y a plus de 20 ans et pourtant ce pays est toujours au centre de votre écriture. Pourquoi ?
Parce que on peut quitter Haïti, mais Haïti ne vous quitte jamais. Et je ne suis pas la seule. Il y a même des non-haïtiens qui découvrent le pays, qui découvrent les Haïtiens du pays et qui, comme on dit au Québec, tombent en amour avec Haïti. Donc, l'histoire tragique d'Haïti aussi fait qu'il est difficile d'oublier le pays, d'oublier ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu et... C'est pourquoi je n'arrive pas. On me demande souvent, tu veux pas écrire autre chose ? J'aimerais bien écrire autre chose, mais je n'arrive pas.
Et depuis 20 ans, vous avez pu y retourner ?
On a pu y retourner quelques fois, jusqu'au moment où les gangs ont commencé avec la violence aveugle. À ce moment-là, on n'y est plus retourné.
Et vous qui vivez au Québec, qui écrivez en français, quel est votre lien aujourd'hui avec la langue créole ?
Je fais partie de la toute faible minorité d'Haïtiens dont la langue maternelle est à la fois le créole et le français. J'ai été élevée, donc, dans une famille francophone, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes compatriotes. Donc, quand il a fallu pour moi écrire spontanément, c'est le français, puisque c'est dans cette langue que j'ai lu. J'ai toujours énormément lu, donc c'était pour moi naturel. Et dernière chose amusante, j'ai appris à écrire le créole à l'Université de Montréal. Parce que j'ai eu un cours de linguistique. Le prof québécois, quand il a su que j'étais haïtienne, il m'a dit, mais vous parlez créole? J'ai dit, bien oui, je parle créole. Il m'a dit, j'aimerais que vous travailliez avec moi. J'ai dit, mais je suis désolée, je ne l'écris pas. Je n'ai jamais appris à l'écrire. Il m'a dit, je vais vous montrer. C'est lui qui m'a montré à écrire le créole, ce qui m'a servi pendant mes années de journalisme, où j'ai travaillé en créole, et j'ai même été prof de créole au secondaire en Haïti, parce que ça me passionnait d'apprendre cette langue à des jeunes, en leur donnant la chance que moi, je n'avais pas eue.
Est-ce que c'est une langue que vous continuez de parler?
Oh oui, tous les jours.
Avec qui?
Tous les jours, avec mon compagnon, avec mon fils, avec mes amis haïtiens. Et comme l'infirmière, quand j'ai été opérée, m'a dit, c'est quoi ce charabia quand je me suis réveillée? Parce que en sortant de la salle d'opération, dans la salle du réveil, je parlais en créole. Parce que j'étais dans les vapes. Et l'infirmière québécoise m'a dit, mais vous parlez charabia? Je dis, non, je parle créole.
Et vous disiez quoi?
Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est comme dans mes rêves, je rêve en français, je rêve en créole. Je suis parfaite bilingue à ce niveau-là.
Vous êtes donc au cœur de la francophonie, la langue française, la langue québécoise et la langue créole.
Absolument.
Merci beaucoup, Jean-Guy Dominique, d'être venu nous parler de ce nouveau roman qui s'intitule « Tu nous manques » et qui est paru aux éditions Remue Ménage.
C'est moi qui vous remercie, Catherine.
Et vous pouvez entendre l'intégralité de cette rencontre avec Jean-Guy Dominique dans l'émission de Catherine Fruchon-Toussaint « Littérature sans frontières » à retrouver en podcast sur RFI.fr. Je vous rappelle que RFI s'intéresse également à l'actualité haïtienne du lundi au vendredi à 13h10 temps universel sur l'antenne Monde dans le journal d'Haïti et des Amériques.
La culture.
Et on poursuit notre tour de l'actualité culturelle avec de la musique à présent. Gio, c'est le titre du deuxième album commun entre le choriste sénégalais Ablaye Sissoko et l'accordéoniste français Cyril Brotteau. Cette rencontre, qui remonte à 5 ans, est à la fois amicale et musicale entre deux hommes qui ont accordé leurs sensibilités respectives. Le savant entremêlement de leurs instruments a enchanté le public du festival Babel Musique XP à Marseille, où ils se sont produits jeudi soir. Olivier Roger a rencontré les deux musiciens.
Ma chérie est fan de la musique d'Ablaye depuis le Griot Rouge, depuis très longtemps. J'ai invité Ablaye à venir faire un concert solo dans notre salon. Ablaye a accepté. On se connaissait absolument pas.
Voilà. Donc Ablaye, quand on vous dit bonjour, je vous connais pas, mais venez chanter dans mon salon, vous acceptez?
Non, pas forcément, non. Sinon... j'aimerais bien. Mais la plupart, j'accepte. Hein. Moi, je sais d'où je viens, c'est-à-dire ma tradition, ma culture, en étant un griot aussi. Souvent, quand on appelle un griot, s'il n'est pas occupé, il n'a pas le droit de refuser.
Depuis que je joue, moi je joue des musiques de tradition populaire occitane, du sud de la France, et le contexte actuel, c'est le contexte de danse, le contexte de bal. Là on n'est plus du tout dans le même contexte, on n'est plus du tout dans la même musique, donc il m'a fallu un peu pousser la réflexion pour savoir comment est-ce que j'allais faire. Alors après, on se rend compte qu'on n'entend pas les trucs du tout pareil, le début, les fins, les structures, les machins, tout ce que tu veux techniquement. Et en fait, au bout d'un moment, on dit, bon, mais tu sais quoi, on va arrêter d'en parler, et en fait, on va jouer.
Derrière les instruments, il y a les hommes. Maintenant, quelle est l'histoire que ces hommes-là veulent raconter, en fait, c'est ça. Donc, si on a envie vraiment de raconter nos histoires, il n'y a pas de raison que les instruments ne suivent pas.
On s'alimente tous les deux en se faisant des propositions. Et évidemment, on passe un temps à se les approprier, on passe un temps à les jouer, on passe un temps à s'en imprégner.
Et si le feeling est là et cette envie de partager, voilà, c'est une chose très naturelle aussi.
Une rencontre musicale à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Journal présenté par Oda Nadji Ali. À la une, on en parlait dans le journal tout à l'heure, l'épidémie de chikungunya fait 2 victimes à La Réunion. Bonsoir Oda.
Bonsoir. L'épidémie de chikungunya s'intensifie sur l'île de La Réunion avec près de 3000 nouveaux cas en une semaine. 2 personnes âgées de plus de 80 ans sont décédées des suites de la maladie, annonce de l'Agence régionale de santé et de la préfecture de La Réunion ce vendredi. Priscilla Etève.
Tout ce que la préfecture a indiqué, c'est qu'il s'agit de 2 personnes âgées de 86 et 96 ans et l'une d'elles présentait des comorbidités. Mais pour le moment, on ne sait pas dans quelle commune elles habitaient. Il s'agit des 2 première victime du chikungunya après la détection du premier cas le 23 août dernier. 7 mois plus tard, l'Agence régionale de santé enregistre 8500 contaminations sur l'île, dont 24 hospitalisations avec 3 cas sévères. Depuis, le virus s'est propagé sur l'ensemble du territoire. Une accélération qui a décidé, la préfecture a déclenché il y a une semaine tout pile le niveau 4 du plan hors sec. Cela correspond à une épidémie de moyenne intensité.
La Guyane et Mayotte en tête des départements français les plus touchés par le VIH. Mayotte où tous les ans, entre 80 et 100 personnes découvrent qu'elles sont porteuses du virus. À l'occasion du SIDAction ce week-end, le docteur Nyang, infectiologue au centre hospitalier de Mayotte, fait le point sur la situation dans le département de l'océan Indien. Il répond à Mathis Debril.
En moyenne, on a à peu près 70 à 80 nouveaux dépistés depuis 2022. Les nouveaux dépistés, c'est-à-dire ceux qui connaissent pour la première fois le statut sérologique VIH. Et ça ne fléchit pas depuis 2022, ça a été l'objet d'une alerte à l'ARS et à l'ensemble des acteurs sur la thématique VIH-SIDA à Mayotte. On sait que depuis lors, on a déployé un peu plus les tests rapides de dépistage du VIH. Le dépistage, ça a été toujours le maillon faible dans la cascade de prise en charge du VIH. À Mayotte encore, c'est pire. Ça a été très timide de le fait de déplier les tests rapides, mais depuis 2022, en tout cas, aujourd'hui, ils sont mis en place au niveau des PMI. Aujourd'hui, au niveau des centres périphériques, on commence à les utiliser et qu'il y a plus de dépistage également hors mur au niveau de nos institutions, c'est-à-dire CEGID et les associatifs.
Les infirmiers libéraux de Guyane en colère, ils ont manifesté ce matin devant la préfecture à Cayenne pour dire stop à la violence après les 2 graves agressions subies par leurs collègues ces derniers jours. Alors qu'elles étaient en service, une infirmière a subi un viol et une autre un braquage. Awate Fargoubi, présidente du syndicat des infirmiers libéraux de Guyane, avec Nickerson Perdius.
Ce qui est arrivé est vraiment inacceptable et inadmissible aujourd'hui. En 2025, une femme... qu'une collègue se retrouve violée, que l'autre se retrouve braquée pour simplement 4 euros au risque de sa vie, en fait. On va travailler au risque de sa vie. Et ben, je vais demander donc la généralisation de ce système de police connectée. Je vais aussi demander qu'on puisse refaire encore des ateliers comme on en avait fait ici à Cayenne l'an dernier avec la police nationale et donc remettre des ateliers plus récurrents et surtout pouvoir les dispenser sur tout le territoire. Moi, quand une infirmière, qu'elle soit Maripasoula, Saint-Laurent, Kourou, est touchée, je suis clairement touchée, autant que si c'est moi qui avais été touchée. Et c'est ce qu'aujourd'hui, toutes les collègues et tous les collègues, médecins, pharmaciens, infirmiers, tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont venus nous dire. Il y a aussi des patients aussi qui m'ont envoyé des témoignages. Donc vraiment, la population aussi se sent très concernée. Parce que si demain, nous ne pouvons plus aller au domicile des patients, qui va y aller ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Awatef Argoubi, présidente du syndicat des infirmiers libéraux de Guyane. Et puis direction la Martinique avec cette opération grand nettoyage aux prêcheurs. Action d'enlèvement de dépôts sauvages et un nettoyage donc qui va permettre aussi de rechercher des éléments matériels pour identifier les auteurs de ces actes inciviques. Le reportage de Xavier Chevalier.
Vêtu d'une combinaison de protection avec une capuche, d'un masque et de gants, armé de pinces, 7 membres de la brigade de l'environnement ont nettoyé le dépôt sauvage du Mans de Folie. Plus d'une tonne de déchets ont été collectés, au moins 2 contrevenants ont été identifiés, la mairie entend les sanctionner. Pour éviter les dépôts sauvages, la municipalité a d'ailleurs mis en place un système. Christian Constantin, premier adjoint au maire en charge des finances et du personnel.
Il y en avait beaucoup et c'est pour ça que nous avons trouvé une solution, mettre un agent de sécurité en place de façon à regarder quels sont les endroits où mettre les dépôts sauvages. Ils circulent dans les quartiers, surtout dans les routes de campagne, de façon parce que c'est à ce moment-là, c'est dans les routes de campagne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui montent. Donc les gens profitent pour jeter ça dans un petit fond à côté, quoi.
Deux autres dépôts sauvages ont été identifiés dans la commune. À Lanceron et Cazerolan, ils seront nettoyés sous peu.
Et c'est la fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Odan, bonne soirée. Tout de suite, c'est le Conseil Santé présenté par Laurence Garcia.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Avez-vous de bonnes dents? C'est souvent nécessaire pour mordre la vie à pleines dents, mais ça demande aussi une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est l'objet de votre Conseil Santé du jour, Laurence Garcia.
Bonjour professeur Géraldine Escaille.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien oral, professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de médecine bucco-dentaire à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est concernée par des problèmes dentaires et notamment par des caries qui sont évitables à condition déjà de bien se brosser les dents. C'est quoi la technique idéale?
Alors, brossage deux fois par jour, de préférence matin et soir, pas remanger après les repas, bien sûr, le soir, avec une brosse à dents souple, de préférence, et toujours brosser du rose vers le blanc. Donc, on brosse aussi la gencive et toutes les surfaces dentaires, y compris à l'intérieur.
Voilà, c'est bien précis. Brosse à dents manuelle ou électrique?
Les deux peuvent être utilisées à partir du moment où on les utilise bien.
Et pour les enfants, ça commence très tôt, hein, pour les bébés.
Dès qu'on a des dents. Il faut brosser les dents des enfants et il faut les habituer très vite à se brosser les dents, et plus ils sont autonomes, plus ils le font tout seuls. Mais au départ, il faut les aider, bien sûr.
Et il faut rappeler une hygiène alimentaire, le sucre, on évite.
Voilà, et pas que les produits sucrés, pas que les bonbons, les sodas à éviter, bien sûr, mais également les sucres cachés comme les chips, par exemple, qui collent aux dents.
Et on l'oublie, hein, mais il faut le rappeler, une bonne santé tout court, c'est lié aussi à une bonne santé bucco-dentaire. Autrement dit, mauvaise hygiène peuvent entraîner aussi d'autres maladies très très complexes et bien plus compliquées encore. Hein.
Tout à fait. Mauvaise santé bucco-dentaire peut donner une mauvaise santé tout court, et il y a des pathologies et des traitements qui donnent aussi des problèmes bucco-dentaires, donc les deux sont reliés.
Bien se laver les dents, bonne espérance de vie, pour résumer.
C'est ça.
Merci beaucoup Géraldine Lescaille. Le Conseil Santé à réécouter sur notre appli Pure Radio. Et ce matin dans Priorité Santé à 9h10 TU, un tout autre sujet, c'est questions de femmes. Comme tous les vendredis, on parlera de vos souffrances au travail.
C'était le Conseil Santé avec Laurence Garcia. 24 heures en France, c'est fini. Merci à Valentin Vanner, à la technique, à Michael Ponge, notre nouveau rédacteur en chef du soir. À la note, merci à Eric Di Crescenzo. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Christophe Drevet pour les journaux de la nuit. Dans un instant, c'est votre édition Afrique Soir. Mais tout de suite, on prend la direction de Wall Street.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones reprend in extremis 32 points et revient à 41 985. L'indice du Nasdaq arrache 92 points et clôture à 17 784. Le président Trump a limité la chute des marchés et permis à Wall Street de terminer tout juste dans le vert. Donald Trump a laissé entendre qu'il ferait montre de flexibilité en appliquant les nouveaux droits de douane qu'il promet pour le 2 avril. Cela dit, l'inquiétude sur l'impact inflationniste de ces surtaxes continue de déprimer les investisseurs. Le grand gagnant de la séance, Boeing, l'avionneur, remporte un énorme contrat de 20 milliards de dollars pour le développement du futur avion de chasse de l'US Air Force. Boeing était en concurrence avec Lockheed Martin, dont le cours naturellement recule. Le nouvel appareil baptisé F-47 disposera d'un rayon d'action bien plus grand que le F-22 qu'il remplacera. Et bien sûr, le F-47 sera équipé de technologies pour le rendre invisible. Boeing, dont les activités civiles et spatiales sont en sérieuse difficulté, avait grand besoin de cette victoire. L'action grimpe de près de 3%. Catastrophe en revanche pour Nike, le cours du leader des articles de sport plonge au plus bas depuis 5 ans, une baisse de plus de 5%. Le nouveau patron, en place depuis le mois d'octobre, met en garde contre un nouveau recul des ventes de Nike. La Chine est un marché où l'entreprise souffre tout particulièrement. Le baril de pétrole américain grappille une fraction et termine à plus de 68 dollars. L'euro retombe à 1,0815. L'indice Dow Jones avance de moins de 0,1%, le Nasdaq s'offre 0,5% sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones avance d'1,2% et le Nasdaq regagne 0,2%.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
les canons de beauté évoluent avec les réseaux sociaux. Au Maroc, cela touche les femmes et les hommes également. Plus traditionnel, le henné, symbole de joie, arme de séduction. En Mauritanie, il déploie ses motifs géométriques sur les mains et sur les chevilles des femmes.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.